Ça se passe ici et aujourd'hui. Un moment d'écoute proposé par Cécile Yordanoff. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec une ambulancière qui va vous parler de la passion de son métier, une passion brisée par un drôle d'événement.
Moi, je suis ambulancière depuis un peu plus de 10 ans, un métier que j'adore parce que voilà, c'est un échange avec les patients et on se rend compte que le fait d'être en bonne santé, c'est très important et le fait de ce rapport à la maladie avec ce métier, c'est vrai que la valeur de la vie n'est plus la même. Moi, j'étais une maman poule, mes enfants, il y avait un petit bobo, je m'affolais. Et là, en devenant ambulancière, je me dis, oh, ça reste un petit bobo, on fait un petit bisou. Et voilà, on prend la dimension de l'importance d'être en bonne santé, quoi, par rapport à ce métier. Alors, je peux avoir des nouveau-nés, des petits bébés. J'ai un petit enfant qu'on a eu transporté qui est né avec les organes à l'extérieur. Et on lui faisait des pansements compressifs pour remettre les organes à l'intérieur. Ça se passait à Purpan. Et la maman m'a tellement fait confiance qu'un jour, elle m'a même appelée pour venir voir le soin. C'est pour dire, voilà, la confiance et l'échange qu'il y avait entre nous. Parce que bon, c'est quand même quelque chose de très personnel. Et voilà, après, il y a des personnes âgées, il y a des dialysés énormément, des cancers.
Ce qui fait que le Covid, c'était même pas dans vos préoccupations de transport de patients, finalement.
Absolument pas. Ça nous est tombé dessus... comme tout le monde, par surprise. On a une charge de travail, beaucoup de stress, beaucoup d'heures, puisqu'on a du personnel donc, qui ne pouvait pas venir travailler parce que problème de santé, de comorbidité, en surpoids, ce genre de choses. Quand, en période normale, quand on est ambulancière, on a le droit de faire ce qu'on appelle du simultané, c'est-à-dire de prendre plusieurs patients en même temps qui sont à Claude Bernard ou dans un hôpital quelconque et de les ramener chacun à leur tour chez eux. Suite au Covid, on n'a plus pu. Donc, ça a fait une charge de travail supplémentaire parce qu'au lieu de faire un voyage avec deux personnes, on est obligé de faire deux voyages avec une seule personne. Donc, surcharge de travail. Il faut se dire qu'en plus, par rapport au Covid, il a fallu désinfecter les véhicules entre chaque patient. Donc, une surcharge de travail, beaucoup de stress, parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé, on ne connaissait pas cette maladie. Donc, c'était très compliqué pour nous. Il a fallu quand même qu'on continue notre travail. Et voilà. Et les médecins, donc, à la fin, comme ils voyaient qu'ils n'arrivaient plus à avoir de transport par les ambulanciers, ne disaient plus « c'est un cas Covid ». Ça fait qu'on se présentait chez les patients. Donc, il y a un protocole quand c'est un cas Covid. Et comme ce n'était pas présenté comme un cas Covid, on se présentait le DEA et... l'auxiliaire devant les patients et malheureusement on nous disait « Ah oui, mais le médecin vous a pas dit, il y a de la fièvre, il y a des diarrhées, il y a des... » Et alors là, du coup, maladie pas maladie, on se retrouvait en contact avec la personne après avérée ou pas cas de Covid. Mais voilà, donc ça a été quand même assez douloureux dans le sens où déjà on connaissait pas la maladie, on savait pas à quelle sauce on allait être mangé, mais en plus même les médecins n'étaient pas honnêtes avec nous. Donc ça vous fait vraiment douter du cadre médical et de tout ce qui va autour en fait.
C'est intéressant de retourner un peu en arrière sur les faits grâce à ce témoignage. Début 2020, c'était il n'y a pas si longtemps, cette épidémie sème la panique. Les informations télé, rappelez-vous, sont très alarmistes. On parle d'hécatombe, de mort en Italie, d'une flambée également mortelle en Alsace. Même si certains doutent depuis le début de l'objectivité des informations, il y avait tout de même beaucoup d'inconnus. Alors les rats quittent le navire, si je peux me permettre. Ceux qui sont fragiles, ceux qui s'estiment fragiles aussi, se mettent en congé maladie ou en télétravail quand on leur impose. Certains cabinets médicaux ne reçoivent plus les malades, on passe à la téléconsultation. Pourtant, il reste du monde sur le pont, vous venez de l'entendre. À ce moment-là, personne n'exige de ces bons petits soldats d'être vaccinés, déjà bien heureux s'ils ont des équipements de protection adaptés. Avant d'être tout bonnement virés pour bons et loyaux services et les risques encourus, y a-t-il eu une petite reconnaissance? Par exemple, ces fameuses primes dont on a tant parlé, en particulier car elles n'ont pas toujours atterri dans les bonnes escarcelles.
Dans ma société, en tout cas, on ne l'a pas eu. On l'a demandé, on a expliqué qu'on avait fait des heures à la toque, on a travaillé comme des fous, on a pris des risques, c'était anxiogène, c'était vraiment... On était contents quand on allait voir les patients parce qu'on se rendait compte que comme les gens étaient coupés du monde... Quand ils nous voyaient arriver, on devenait les sauveurs parce que même les époux, les conjoints du patient qu'on venait chercher, on sentait qu'ils avaient besoin de parler et du coup, une prise en charge qui aurait dû prendre 15 minutes prenait une demi-heure parce qu'on voyait que la personne qui allait rester seule au domicile avait besoin de parler, de comprendre, d'échanger. Et des fois, on était les seules personnes qui voyaient depuis un mois. Donc ça, c'est vrai que ça a été très dur. Et non, on n'a pas eu de prime, aucune reconnaissance et limite, on n'a fait que notre travail. En sachant que ce qu'on nous a dit aussi, c'est que le métier d'ambulancier, c'est un choix, c'est un sacerdoce et que limite, on pourrait le faire de bon cœur. Alors le cœur, il y est. Je pense que la plupart des ambulanciers à qui vous pourrez vous adresser, ils ont une passion pour ce qu'ils font et on aime aider notre prochain, on aime être là, on contribue à la santé des gens et ça, c'est très important. Mais aucune reconnaissance. Les collègues qui étaient présents à la société, ben, par contre, c'est le seul point positif par rapport au Covid, c'est qu'on était très solidaires entre nous. Il y a eu un soutien, mais quelque chose que je n'avais jamais connu avant. Pourtant, il y a une très bonne ambiance dans l'équipe dans laquelle je tourne. Et là, on a vu qu'il y a des liens qui se sont tissés, parce que justement, on était tous dans la même galère. Et on avait peur, hein, on allait travailler avec la boule au ventre, hein, des fois. Hein. Faut pas croire qu'on y allait la fleur au fusil et dire ah, super. Hein. Et là où c'est compliqué, c'est que voilà, il y a des personnes qui nous apportaient des biscuits, des fruits, des gens qu'on n'avait jamais vus avant. Donc c'était, waouh, sur le plan humain, c'était magique. Ça avait peut-être plus de prix que cette prime, mais la reconnaissance de notre employeur serait fait du bien aussi parce que voilà, on s'est mis en danger pour la santé des autres et aucune reconnaissance. En gros, on n'a fait que notre métier. Et là, à l'heure actuelle, avec ce qui se passe, mais je ne comprends plus, j'ai l'impression que ce que j'ai vécu avant, j'ai dû le rêver. Parce qu'il y a eu beaucoup d'empathie. Les gens, soi-disant, nous applaudissaient le soir à 20h. On était les meilleurs. Et là, on se retrouve sur le carreau, sans emploi. On n'a pas le droit au chômage. On est suspendu. Et on n'est même pas perçu comme... Je crois que même un assassin est mieux perçu que nous. Parce que nous, on est vraiment... je vais dire le mot. Alors, excusez-moi pour le gros mot. Mais on est considéré comme de la merde, en fait. Alors, je peux comprendre que quand ça ne touche pas une famille en particulier... On l'entende, on se dise « Ah oui !» Et puis une fois qu'on rentre à la maison, c'est fini. Mais là, je pense que ça touche quand même beaucoup de personnes. On transporte des personnes âgées, on a du lien avec eux, on s'attache à ces gens, à des plus jeunes aussi. Et de voir qu'il n'y a pas grand monde qui s'inquiète de ce qui peut nous arriver, parce que derrière, il y a des familles, il y a des emplois, il y a des crédits. Il y a une santé aussi qui est mise en péril par rapport à toute cette situation. Et c'est vrai que c'est très dur à vivre et... Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, je ne suis pas toute seule.
Alors justement, on a oublié de préciser, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre ce moment de sympathie hein, et là tout d'un coup ce mouvement de tout le monde qui tourne le dos, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
Ben en fait, il y a eu le couteau sous la gorge par rapport à une vaccination qui a été imposée, qui n'est pas un choix éclairé de plus. Et pour un vaccin que vous ne faites pas ou une injection, vous vous retrouvez sans emploi, sans même avoir droit au chômage, alors que j'ai travaillé toute ma vie. Donc c'est très dur à entendre, à comprendre, à assimiler et de se dire, moi j'ai 50 ans passé, de me dire, bon ben je m'étais vue vieillir en tant qu'ambulancière et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà, alors la motivation je l'aurai toujours. Mon boulot, il me plaît toujours autant. J'ai espoir que les choses changent. Mais c'est compliqué.
À vos biscuits, Jean intentionnait qu'il les distribuait au moment difficile. Souvenez-vous de ceux dont vous appréciez la gentillesse et la disponibilité et qui ont disparu mystérieusement. On ne vous dit pas clairement ce qu'ils sont devenus. Par ces témoignages, ils vous délivrent un message et ça se passe ici, aujourd'hui, à côté de chez vous. Retour à notre entretien avec notre camarade ambulancière qui, là, accompagne une jeune fille dans un centre de vaccination. On dit qu'on appelle cela un vaccinodrome. Qui a inventé cet horrible mot qui déconsidère l'humain autant que l'acte médical? Dans ce suffixe, il y a la notion de course, donc course au vaccin. On pense avec effroi au vocabulaire de guerre employé depuis le début. Couvre-feu, laissez-passer, vaccinodrome comme vélodrome, lieu de rassemblement honteux, comme bésodrome, lieu de non-respect de l'être humain devenu objet de consommation.
Alors, en fait, c'était au séquestre à Albi. J'ai dû transporter une jeune fille de 15 ans qui ne voulait pas se faire vacciner. C'était sa maman qui l'obligeait à le faire et la grand-mère l'accompagnait. Alors, la grand-mère qui, quand même, était un petit peu ouverte, mais qui, en parlant, se rend compte que les gens ne le font pas. Je dis toujours la même chose, mais c'est pas pour la santé des gens. Même si elle avait sa maman qui, a priori, avait des soucis de santé, mais c'est vraiment pour garder le luxe, parce qu'actuellement, ça devient un luxe, de pouvoir sortir, d'aller au cinéma, de se faire un petit resto, aller à la guinguette ou boire un café en terrasse. Et donc, j'amène cette jeune fille, et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, vous arrivez, c'était au parc des expositions d'Albi, au séquestre, et donc vous arrivez, il y avait un espèce de petit cheminement comme à Disney quand vous allez aux attractions, et il y avait un premier guichet avec une jeune femme, alors des gens très souriants, alors ça, pour le coup, très, très, très agréable, hein, l'accueil, on ne peut pas dire le contraire. Et donc, on lui a remis un document, donc je n'ai pas lu ce document. On l'a fait passer dans une autre pièce où il y avait des grandes tables où les gens devaient lire et signer ce document.
Un petit rappel de la règle concernant la vaccination des mineurs. Extrait du texte de Amélie.fr. Le jour de la vaccination, l'adolescent de moins de 18 ans peut venir accompagné de l'un de ses parents ou titulaire de l'autorité parentale. Il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation. Concernant l'accord parental, les adolescents de 12 à 16 ans pourront se faire tester et vacciner avec l'accord écrit d'un seul parent. Les plus de 16 ans pourront se faire vacciner sans accord parental. On insiste bien sur le fait que se faire accompagner n'est pas obligatoire. Je ne vais pas remettre en question les plus de 16 ans qui ont leur autonomie avec leur propre carte de sécurité sociale. Je mets ici l'accent sur les moins de 16 ans, ce qui est le cas de l'exemple cité dans l'émission. L'accord d'un seul parent est une curiosité. Un des parents peut ignorer des pans importants des pathologies et contre-indications de l'enfant. Beaucoup de jeunes, en particulier quand ils sont un peu couvés par un parent, ont du mal à faire un bon compte-rendu de leur état de santé, si tant est qu'on leur demande. Or là, un gamin de 12 ans peut se présenter seul. Je suis allée voir la fiche d'autorisation parentale. C'est encore plus succinct. Nom, prénom d'un parent certifiant exercer l'autorité parentale. Qui va contrôler cela? Autorise le centre de vaccination à effectuer le vaccin et un test d'orientation diagnostique. Nom du vacciné, date de naissance, numéro d'une carte de sécurité sociale du mineur ou du parent. Fait à signature, point barre. Il est évident qu'un faux peut être établi très facilement. Le formulaire ne contient aucune question sur d'éventuelles contre-indications connues du parent qu'il pourrait signaler via un formulaire plus confidentiel. À moins qu'on leur injecte de l'eau de rose pour éviter les effets secondaires, c'est un peu court comme méthode. Dans le cas qui nous est décrit, l'adolescente, qui a moins de 16 ans, a donc complété elle-même les formulaires de pré-vaccination. A-t-on vérifié son niveau d'autonomie et de compréhension? Il est bien spécifié que le mineur doit être consentant. Cette mineure était non consentante, mais a été vaccinée.
Je sais, mais c'est elle qui a signé, c'est pas la grand-mère, hein, pour l'avoir vue. Donc, et à partir de là, donc, on a été à un autre guichet. Alors, entre-temps, il y avait une belle affiche avec un texte de Mandela qui était complètement détourné en disant que ce que vous faites, c'est bon pour le monde, c'est bon pour autrui. Donc ça m'a mis à l'envers, honnêtement. J'ai dit, c'est pas possible. Et après, à partir de là, on arrive donc à un dernier comptoir où on nous dit bravo, bravo d'aller se faire vacciner. Alors là, vous dites quand même, moi j'ai 50 ans, j'en ai eu des vaccins, mais on ne m'a jamais dit bravo. Hein. Donc à partir de là, quand même, vous vous dites, il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Et après, derrière, voilà, des jeunes gens toujours très souriants et qui vous accueillent. Et après, on vous dit, vous allez par là. Et là, moi, je n'ai plus le droit d'y aller. Et tant mieux, parce que honnêtement, ça m'a retourné, vous voyez. Et en sortant de là, je retourne à mon VSL, donc véhicule sanitaire léger, la voiture ambulance. Et j'ai un petit papy qui tape à mon carreau. Alors, je dis, aïe, 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 pourvu qu'il n'aille pas se faire vacciner. Et non, il demandait où se trouvait la radio du séquestre. Donc, ça m'a fait plaisir et je suis allée l'accompagner à la radio du séquestre. Voilà. C'est vraiment très compliqué. C'est que ce vaccin, déjà, comme on nous le présente, avec le couteau sous la gorge, tous les autres vaccins que j'ai faits, ça ne m'est jamais arrivé. On me disait, voilà, tu te fais vacciner. On m'expliquait le pourquoi du comment. Et pour le coup, voilà, il n'y avait pas de souci, c'était éclairé. pas de problème. Alors que là, on voit qu'on nous met une pression pas possible. On nous stresse limite tous les jours. Alors, tu t'as pris ton rendez-vous? Alors, à Gaillac, c'est là. À Albi, c'est là. À Montauban, c'est là. Ben, c'est bien, mais moi, j'irai pas. Moi, j'attends d'avoir un vrai vaccin.
C'est souvent une réponse qu'on entend. Un vrai vaccin. Actuellement, on peut en effet en douter puisqu'on en est à 3 doses en 6 mois. Le délai entre le 2e et la 3e dose a été raccourci, ce qui est assez inédit pour un vaccin, avec des cas de vaccinés positifs nombreux et une contagiosité reconnue. On pourrait pardonner ces ratés puisque les vaccins les plus utilisés en France n'ont pas terminé leur phase d'essai. Mais dans ce cas-là, on se dispense de rendre obligatoires les fameux vaccins. D'autre part, on découvre au fur et à mesure des contre-indications. Peu à peu, les langues se délient. Des pays européens ont suspendu l'autorisation d'injecter le vaccin Moderna, par exemple. Et la France le déconseille désormais pour les moins de 30 ans. Merci pour ceux qui l'ont eu. Je vous laisse regarder par vous-même pourquoi. Moderna n'est plus autorisé en 3e dose. Alors, quand une personne vous dit « j'attends un vrai vaccin », cela vous paraît peut-être maintenant plus admissible et raisonnable comme réponse non. Et cela vous paraît peut-être enfin injuste d'être suspendu juste pour avoir souhaité un peu plus de sérieux sur l'information avant de recevoir une injection. Oui, mais certains vont peut-être dire « il y avait urgence, qu'est-ce que vous proposez ?» Quand il y a urgence, on pratique des gestes de protection, bien connus des soignants. Il existe dans le monde quantité de maladies beaucoup plus contagieuses et beaucoup plus mortelles que la maladie Covid, et qui, hélas, n'ont pas encore de vaccin. Peut-être ne sont-elles pas financièrement aussi juteuses ? C'est un autre débat. Pourtant, les médecins continuent de prendre en charge ces malades, ils savent le faire. De plus, si on veut vraiment de la sécurité, on peut aujourd'hui tester très facilement et gratuitement le personnel médical, chaque jour, si on veut, ce qui diminuerait les risques de contamination bien mieux que le vaccin. Donc, il n'y a actuellement ni urgence, ni logique à imposer une vaccination qui doit encore s'améliorer pour faire ses preuves d'un point de vue sanitaire. Parlons-en librement.
Donc, il y a plein de choses, et je ne suis pas forcément très instruite, mais il y a des choses qui m'alertent. Alors, je me dis, il y a quand même des gens beaucoup plus instruits que moi et qui n'arrivent pas à réagir ou à réaliser. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le monde dans lequel je vais et dans lequel j'emmène mes enfants, malheureusement.
Alors, justement, donc, depuis cette promulgation de loi sur la vaccination obligatoire, finalement, vous êtes devenue une hors-la-loi, au sens propre du terme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos patients, ceux que vous avez accompagnés, c'est le cas de le dire, vraiment au sens propre, pendant toute la période de la maladie?
Ben, j'aimerais qu'ils ouvrent les yeux, pas forcément que vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de tout ce qui se passe autour d'eux, que cette vaccination n'en est pas une, que j'ai l'impression que on joue avec notre santé, mais pas dans le bon sens. On n'essaie pas de nous protéger, on le dit, on le répète. Quand vous voyez donc que c'est les laboratoires qui n'assument pas les effets secondaires d'un produit qu'ils vendent, à partir de là, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser. Et on aimerait peut-être un peu plus de soutien de leur part, qu'ils ouvrent les yeux. On était là quand eux n'étaient pas bien. Et on aimerait qu'eux, de leur côté, voient qu'on ne va pas bien. Et malheureusement, on n'est pas là non plus pour dire à tout le monde « on ne va pas bien ». C'est ça aussi qui est compliqué dans cette situation, c'est qu'on aurait plus tendance à se cacher plutôt qu'à se montrer. Et comme vous dites, on est dehors la loi, mais pourtant on n'en a rien fait de mal, on n'a tué personne, on n'a volé personne. On cotise, on paye des impôts, on fait tout normalement. Et là, pour une histoire d'injection, on se retrouve à ne plus avoir droit à quoi que ce soit.
C'est comme une mise au ban de la société. Vous avez l'impression que j'existe plus, en fait.
Oui, je vous l'ai dit, ouais. J'ai une sensation de ne plus être là où je devrais être. Voilà, je vous dis, je suis maman, j'ai un mari, j'ai cette chance-là. Mais moi, voilà, à 50 ans, je me voyais faire ma fin de carrière en tant qu'ambulancière. Et là, du jour au lendemain, c'est pas comme si on avait été préparé. On vous dit d'ici un an, il va falloir... Du jour au lendemain, on vous dit, vous êtes vacciné, sinon vous perdez votre emploi. On perd notre emploi, d'accord, bon, ben, j'ai quand même cotisé, il y aura éventuellement le chômage et je pourrais rebondir. Ah non, il n'y a plus rien du tout. Alors, plus rien du tout, Vous dites, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui me vaut d'en arriver à cette situation-là? Parce que vraiment, je comprends pas. J'aurais fait du mal. Et encore, même des gens qui ont fait du mal, ils se retrouvent pas dans cette situation-là. Et encore, moi, je suis qu'ambulancière. Moi, je pense aux médecins qui ont fait toutes leurs études. C'est un sacerdoce, c'est un choix de vie, de carrière, d'aider les gens, d'être en empathie. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, un médecin qui part, eh ben. Oh ben, il va falloir vite que je retrouve un autre médecin. Comment je vais faire? Le souci, il est là.
Ce cas-là s'est passé ici, à côté de chez vous. Le médecin de Parisot, après plusieurs années de soins, a disparu des ondes. Interdiction d'exercer prononcée par l'ARS pour cause de non-vaccination. Qui s'en est inquiété? Tout juste si on ne lui a pas reproché d'être parti. J'ai lu quelque part que les habitants d'une petite ville de Bretagne se sont mobilisés pour défendre leurs médecins non vaccinés. C'était si difficile que ça à réaliser, cela? Je suis allée devant le centre médical de Parisot, quelques jours après le départ de son médecin. On avait décroché la plaque, pas même un bouquet de fleurs pour marquer une attention. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Je laisse le mot de la fin à mon invité, que je remercie chaleureusement.
Vous vous dites, mais... il n'y a plus de cœur dans cette société, il n'y a plus de sentiments, d'empathie pour les gens. On a l'impression que ben, quelqu'un tombe à côté de vous, on passe, on regarde et on continue notre chemin. Et ça, c'est, oui, c'est dur de l'entendre, de le voir et de l'encaisser.
Tous les épisodes de l'émission « Ça se passe ici et aujourd'hui » sont à retrouver en podcast sur le site de cfmradio.fr. Bonne journée et à bientôt.